Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France. Adieu.
Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 minutes du soir, qu'il a rendu son dernier soupir.
C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité.
Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret.
Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Chateaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 longues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité.
L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le sauveur du monde. Une couronne d'épines.
Napoléon, le crépuscule de l'aigle. Une série réalisée par Franck Istas et Pierre de Valais. 3e épisode, le piège.
Napoléon, après la terrible défaite de Waterloo, pensait pouvoir relever une armée et repartir en campagne contre les alliés qui arrivent aux frontières. Les chambres s'opposent violemment à ses ambitions guerrières et il doit abdiquer. Forcé de quitter Paris et la France, Napoléon pense pouvoir aller aux États-Unis, mais à son arrivée avec sa suite à Rochefort, des bateaux anglais bloquent la rade. Imprévisible, refusant de tenter l'aventure en forçant le passage, Napoléon décide de se rendre à son ennemi de toujours, l'Angleterre. Le général Montholon, qui suit Napoléon dans l'exil, assiste à ce moment unique dans l'histoire de France.
Le 15 juillet, à la pointe du jour, l'empereur, revêtu de l'habit vert de colonel des chasseurs de la garde et l'épée au côté, quitta l'île d'Aix et s'embarqua dans le canot de l'épervier qui devait le transporter à bord du Bellérophon.
Et Napoléon va demander l'asile politique, il va monter à bord du Bellérophon et il va se présenter au capitaine Maitland, donc le 15 juillet, et lui demander de l'amener en Angleterre pour qu'il puisse, là aussi, se présenter devant le prince régent, demander l'asile politique.
Charles-Éloi Vial, historien, auteur de Napoléon, la certitude et l'ambition.
Alors, le capitaine Maitland n'est pas naïf. Il sait que toute la Royal Navy est en alerte depuis plusieurs jours, que l'on cherche frénétiquement Napoléon pour l'arrêter. Il va être prudent, il ne va pas s'engager. Il va dire que, à son avis, il serait très surprenant que sa requête ne soit pas entendue et que, naturellement, Napoléon peut s'installer à bord. Il va lui rendre les honneurs réservés au souverain. Et ça n'est qu'une fois arrivé en rade de Plymouth, devant les falaises anglaises, que Napoléon va apprendre qu'en réalité, ce qui a été décidé à Londres, ça n'est pas de l'accueillir sur le sol anglais, mais c'est de l'envoyer très, très, très loin.
Napoléon décide de se rendre aussi parce que
Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
On peut le dire, le capitaine anglais du Bellérophon lui a menti. L'a-t-il fait sciemment ou non ? On peut penser quand même qu'il l'a fait sciemment. En dépit de ses dénégations postérieures, le capitaine Maitland a attiré Napoléon dans un piège. Lorsque Napoléon monte à bord du Bellérophon, il est accueilli en souverain. Il y a un service d'honneur, on lui donne la plus belle cabine, et au fond, il peut se dire que tout se passe comme prévu. C'est-à-dire, je suis bien accueilli, je suis bien installé, donc on va m'emmener en Angleterre, et puis on va m'installer, je ne sais pas, dans un cottage de la campagne anglaise, où je coulerai des jours heureux à vivre en bourgeois. À ce moment-là, Napoléon ne se doute pas que le piège est en train de se refermer.
Le capitaine Frédéric Lewis Maitland, qui commande le Bellérophon, a laissé dans ses mémoires un précieux témoignage sur le comportement de Napoléon à bord de son bateau dans les premières heures, les premiers jours, après qu'il soit monté à bord.
À son arrivée à bord du Bellérophon, Il fut reçu sans aucun des honneurs qui se rendent généralement aux personnes d'un rang élevé. La garde fut mise en haie sur le devant de la dunette, mais elle ne présenta point les armes. On n'avait donné aucune instruction sur la manière dont on devait le considérer. Quand Bonaparte fut sur le pont, il eut l'air de regarder avec beaucoup de plaisir les soldats de marine. Il parcourut leurs rangs, inspecta leurs armes et loua leur tenue en disant
« Que de choses on pourrait faire avec 100 000 soldats comme ceux-ci !»
Il demanda quel était le plus ancien soldat, s'approcha de lui et lui parla. Bonaparte fit ensuite faire de l'exercice à la garde. Il fit quelques remarques sur la différence dans la manière de charger à la baïonnette entre nos troupes et celle des Français. Il trouva défectueuse notre manière de fixer la baïonnette au fusil.
Les Anglais sont donc parvenus à attirer Napoléon sur le Bellerophon et étonnamment, l'ambiance est plutôt décontractée entre Anglais et Français. Napoléon est confiant, certain de pouvoir finir ses jours tranquillement dans la région de Londres.
Bonaparte s'amusait assez ordinairement à jouer aux cartes après le déjeuner. Le jeu était le 21 et tout le monde y prenait part, excepté moi. Il me proposa de jouer aussi, mais je lui dis que je n'avais pas d'argent, ayant opté pour règle de laisser tout à ma femme quand j'allais à la mer. Ça le fit beaucoup rire, et avec une grande affabilité, il offrit de me prêter quelque chose et de me faire crédit jusqu'à ce que nous arrivassions à Londres.
Mais derrière ces apparences de croisière, Napoléon, toujours aussi imprévisible aux yeux des Anglais, fait l'objet d'une surveillance de tous les instants.
Le capitaine du Bellerophon, Maitland, en fait, s'inquiète de Napoléon à bord.
Pierre Branda, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène.
Il a peur qu'il puisse se jeter à l'eau, etc. Donc quand il ne le voit pas de quelques heures, il demande à un de ses aspirants de marine d'aller se pencher sur la vergue arrière pour essayer de, comme ça, dans une position très inconfortable, d'apercevoir Napoléon par les volets de la dunette arrière. Parce qu'en fait, il ne peut pas visiter Napoléon. Alors il va quand même s'en sortir parce qu'il va envoyer l'un de ses domestiques qui va prétendre avoir oublié quelque chose dans la cabine. Donc pour voir si Napoléon était encore là parce qu'on ne l'entendait plus. Napoléon, il faut comprendre qu'on est avec des gens qui se disent, voilà, avec lui, tout est possible. Et qui sont en permanence sur le qui-vive parce qu'ils ne sont jamais tranquilles avec Napoléon. Et Maitland, qui a réussi à capturer Napoléon, il s'est livré à lui. Sa mission, c'est de l'amener à bon port, je veux dire, jusqu'en Angleterre. Lui ne sait pas, ne connaît pas la suite. Enfin, sa mission est là. Donc, il essaie d'abord que Napoléon se sente bien à bord de son navire, de le rassurer pour pas que, surtout pour pas qu'il y ait des incidents, en fait, hein, pour pas qu'on ait un drame à bord. Enfin, bon, et bon, il y a quand même des traditions maritimes aussi qui jouent. Tout un ensemble de choses qui font que les choses se passent très très bien jusqu'à ce qu'on arrive sur les côtes anglaises jusqu'au 31 juillet 1815 en fait.
Si le capitaine du Bellerophon est inquiet, le gouvernement britannique l'est tout autant. Comment gérer ce prisonnier hors norme? Sans compter qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, Napoléon a de nombreux admirateurs en Angleterre. Quand le Bellerophon fait escale à Plymouth, tout le monde veut apercevoir l'ancien maître de l'Europe.
C'est quand même assez densément peuplé, il y a du monde, on est en plein été, il fait beau, la mer est calme. Donc on sait qu'il y a Napoléon, qui est l'homme le plus célèbre du monde, sur ce bateau. C'est un bateau qui va attirer du monde, c'est-à-dire que des barques vont se promener autour du Bellerophon. Napoléon sait bien que là, il y a un levier sur lequel il peut jouer, qui est l'opinion publique. C'est-à-dire que si les Anglais l'aiment, si les Anglais font pression sur le gouvernement, cela peut peut-être changer son sort. Donc il va beaucoup se montrer. Il va beaucoup se promener sur le pont du Bellerophon, il va agiter son chapeau et l'on sait qu'il va y avoir plus de 1000 barques qui tournent autour du navire en essayant de l'apercevoir. Donc il y a vraiment une forme de curiosité, d'engouement. On est quelques semaines après Waterloo, mais déjà Napoléon est un personnage de légende.
La grande déconvenue pour le gouvernement britannique, c'est que tant que Napoléon est resté près des côtes anglaises, des foules entières se sont portées pour aller le voir, mais pas pour voir le voir. Il y a sans doute eu des curieux pour apercevoir ce grand personnage, mais c'est surtout des partisans, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont venus l'acclamer, peut-être même plus qu'à Paris, ce qui est quand même singulier. Et en fait, à bord des barques, les gens ont loué des barques pour approcher les navires. Ils n'ont pas pu d'ailleurs parce que la marine britannique avait dispersé tout un certain nombre de canots en filet de protection comme ça, hein, pour empêcher qu'on puisse s'approcher trop près de navires. D'ailleurs, ils repoussaient si bien les canots qui venaient qu'on a eu 3 noyés, hein, 2 dames anglaises et 1 anglais. Encore d'autres victimes de déportation de Napoléon Zadem et des anglais. Et beaucoup d'entre eux portent un signe distinctif bonapartiste à boutonnière, hein, une violette. Donc c'est signe de ralliement. Quand il paraît sur le pont et qu'il salue avec son chapeau, ce sont des vivas. En fait, la scène est absolument incroyable, hein, je veux dire. Mais il fortifie les craintes du gouvernement britannique aussi. C'est-à-dire qu'il se rend compte que, eh bien, il risquait fort d'être dépassé par leur propre peuple, qui, à un moment ou un autre, aurait peut-être fini par libérer Napoléon lui-même, ce qui aurait été, alors, pour les Anglais, là, la pire des scénarios. Donc, il faut vraiment que lui parte de l'Angleterre et, paradoxalement, finalement, ça condamne aussi Napoléon, qu'il faut vraiment déporter, mais vraiment très très loin.
Quand Napoléon voit cette foule, il est satisfait. Il sait que l'Angleterre est divisée. Ça le conforte dans son idée. Il va pouvoir couler des jours heureux et paisibles en Angleterre.
Il savait que, je veux dire, il y avait eu des partisans de sa personne, même des députés politiquement. Je veux dire, l'Angleterre, il la connaît finalement. Hein. Il sait qu'elle est divisée parce que on a toujours, nous, enfin en France, on rapporte toujours ces épisodes gaulois où nous sommes les champions de la dispute, etc., que nous sommes les seuls à avoir des querelles, etc. Et la France est un pays beaucoup moins fracturé que ne l'est le Royaume-Uni, qui en fait tout sauf uni, il est plutôt désuni, très désuni en fait. Hein. Faut quand même comprendre que entre les nationalités qui existent, il y a de profondes différences. Profond antagonisme et même une haine entre Irlandais, Écossais, Gallois et Anglais. Les divisions politiques sont beaucoup plus prononcées en Angleterre que chez nous, sont assez vives et entre libéraux et conservateurs. Et il y a d'autres aussi strates de conflit entre la marine, l'armée de terre. Enfin bon, c'est assez divisé. Ça, Napoléon le sait. Hein, il va d'ailleurs essayer de jouer avec les divisions anglaises, s'insérer dans le jeu politique anglais. Mais voilà, quand on dit les Anglais face à Napoléon, il faudrait nuancé. En fait, c'est le gouvernement de Lord Liverpool britannique qui est face à Napoléon. Hein. Tout le reste, y compris les officiers hein, de marine ou de terre, sont beaucoup plus mesurés. Et en fait, la crainte des Anglais, c'est bien entendu Napoléon, mais c'est aussi leurs propres troupes, leurs propres soldats, leurs propres unités dont ils ne sont pas sûrs, que ce soit maritime ou terrestre. Donc en fait, on est comme ça face à une société anglaise fracturée et qui fonctionne par, qui est encore nobiliaire. Hein. Je veux dire, un lord ne va jamais parler à quelqu'un du peuple. Hein. À bord du Northumberland, il faut savoir que Napoléon va briser les codes, va demander à ce que des sous-officiers viennent à sa table, c'est-à-dire à la table de l'amiral, puisqu'il partage la table de l'amiral. Et ça, c'est un fait unique dans la marine anglaise. Je veux dire, dans la marine anglaise, les officiers qui sont nobles jamais partager leur table avec un sous-officier. So choking. C'est même pas envisageable. Donc quand Napoléon le fait, il brise les codes et évidemment il séduit. Parce que, tous ceux qui sont en dessous de l'échelle, si je puis dire, en dessous de la noblesse, des lords et de toute cette oligarchie, parce qu'en fait l'Angleterre alors n'est pas une démocratie, c'est une oligarchie. Et en dessous de cette oligarchie, ils sont quand même les plus nombreux, hein, ils se comptent en millions. Finalement, ils ont plus enclin à aimer un personnage comme Napoléon que leur propre chef. Hein.
Dans l'entourage de Napoléon, on est inquiet. On ne partage pas son optimisme. Des bruits courent. On parle de l'île lointaine de Sainte-Hélène comme destination finale pour Napoléon. Marchand, le fidèle valet de chambre de l'empereur, n'ose pas rapporter ce qu'il a entendu.
Les figures autour de nous avaient changé. Le mot Sainte-Hélène se faisait entendre. Deux factionnaires avaient été placés à la porte de la salle à manger. L'un d'eux me dit tout bas, « No good for emperor, Sainte-Hélène. » Le maître d'hôtel m'en dit autant. Je gardais pour moi tout ce qu'avait de triste ces communications.
Tout se passe plutôt bien, Napoléon est assez content. Il est même très optimiste d'ailleurs, hein, parce que des bruits circulent déjà de sa déportation à Sainte-Hélène. Il dit que ce sont des racontars de journalistes et qu'il ne faut pas en prendre, que c'est de la propagande, qu'il ne faut pas l'écouter. Donc en fait, il reste le plus optimiste de tous, parce que dans sa suite, on est quand même un peu encore partagé. Tout le monde n'a pas pu l'accompagner. Hein. Mais enfin, il y a encore autour de lui 25 Français à peu près. Hein. Et donc... il est conforté à croire qu'il va s'établir dans la banlieue de Londres.
Napoléon était sincèrement persuadé que les Anglais allaient lui faire bon accueil. Ils allaient lui faire bon accueil parce qu'il y a une forme de respect pour l'ennemi vaincu. Donc, entre soldats, on se comprend et on se respecte. Donc, de ce point de vue-là, déjà, il pensait qu'il avait le droit à un asile. Et il y a aussi la tradition immémoriale de l'entraide entre souverains malheureux. C'est-à-dire que, de même que par exemple Louis XIV avait accueilli Jacques II d'Angleterre après son exil, il se disait qu'un souverain détrôné peut toujours aller voir un souverain qui est encore en place et lui demander asile. Simplement, il oublie que Napoléon n'est plus considéré comme un général, il est considéré comme une sorte de hors-la-loi, comme un pirate, comme on le lit sur certains documents, et qu'il n'est plus considéré comme un souverain, que l'Angleterre refuse de reconnaître son titre impérial, donc il n'est plus qu'en fait qu'une sorte de délinquant qu'il faut emprisonner.
Napoléon a la puce à l'oreille sur le sort qui lui est réservé lorsque le Bellérophon, loin d'aller accoster dans un port, reste en haute mer. Là, je pense que lui et sa suite doivent commencer à se demander ce qui se passe. Enfin, à mon avis, ils comprennent assez vite ce qui doit se passer, d'où le début de ces négociations avec Lasca, Savary, etc. On contacte un avocat à Londres pour faire jouer l'habeas corpus, etc. Là, je crois qu'ils commencent à comprendre que les choses ne vont pas se dérouler comme elles le devaient. Puis alors, il y a aussi le fait que il n'est plus que le général Bonaparte, que on resserre un tout petit peu la surveillance, que lorsque la population anglaise embarque, vient l'acclamer, le bateau bouge pour aller plus loin, pour qu'on ne puisse plus venir l'acclamer. Donc tout ça, si je puis dire, commence à sentir un peu mauvais, et les choses vont être confirmées assez rapidement. Napoléon se doutait probablement que quelque chose allait se passer, mais quand même, l'annonce qui lui est faite est pour lui un choc.
À Londres, on a déjà tranché. Il est décidé de déporter Napoléon à Sainte-Hélène. Le Premier ministre, Lord Liverpool, est convaincu que cette île lointaine et totalement isolée est le meilleur endroit pour garder Napoléon.
Sainte-Hélène est l'endroit du monde le mieux choisi pour enfermer un tel personnage. À cette distance, dans ce lieu, toute intrigue sera interdite. Et éloigné de l'Europe, il sera promptement oublié.
Celui qui a pris la décision, c'est Lord Liverpool, le Premier ministre. Il l'a prise seul, il faut le savoir. Il l'a prise même avant de savoir que Napoléon s'était rendu à sa flotte.
Pierre Brandin.
Et donc, il l'a pris pour trois raisons. Il a choisi Sainte-Hélène parce que c'est une île lointaine que l'on peut bien garder, donc pour une question de sécurité tout d'abord. Ensuite, deuxième raison, qui est très importante pour lui et pour les Anglais, c'est que l'île de Sainte-Hélène étant une propriété de la Compagnie des Indes, eh bien, il n'y a pas l'habeas corpus. Et les Anglais ont une peur juridique, une crainte juridique que Napoléon puisse recruter un avocat et contester sa détention parce qu'ils ne sont pas à l'aise juridiquement avec cette solution. Et la justice, est-ce qu'elle est ? Elle peut très bien, elle aussi, être imprévisible. Donc ils refusent absolument que Napoléon puisse être défendu ou puisse avoir le moindre droit juridique. Donc en fait, le but des Anglais en envoyant Napoléon à Sainte-Hélène, c'est avant tout de contourner leur propre loi, en fait. Et la troisième raison, c'est qu'on pense qu'en l'éloignant comme ça, eh bien, il ne pourra plus parler, il ne pourra plus communiquer. Parce que Lord Liverpool écrit très directement qu'il se méfie des sentiments de son peuple. Il ne parle pas des autres peuples, il parle de son peuple à lui, de son opinion publique qui, en grande partie, il le sait, est favorable à Napoléon, pour un certain nombre de raisons. Donc, il dit, je me méfie de ses sentiments. Donc, en fait, Napoléon, si loin, on l'oubliera vite, parce qu'il est tellement loin, et là, ils vont se tromper lourdement. Mais il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas seulement une raison militaire à Sainte-Hélène, parce que, dans le fond, terre perdue en Écosse, avec un château, on aurait pu très bien aussi militairement se défendre. Mais non, on cherche à éloigner véritablement Napoléon, parce que, juridiquement, on craint la justice anglaise, et on craint aussi le discours et le verbe Napoléon, qu'on sait incisif et porteur.
Les Anglais s'occupent du sort de Napoléon tout d'abord parce qu'on sait que Napoléon part sur mer, donc ça sera forcément à la Royal Navy de le prendre en charge à un moment.
Charles-Éloi Vial.
On sait aussi que l'empereur d'Autriche n'a pas envie de retenir son gendre prisonnier. Louis XVIII n'a aucune envie d'avoir Napoléon prisonnier également. Il le considère comme un sujet rebelle. Les Prussiens risqueraient de le fusiller et ça créerait un scandale. Donc finalement, autant qu'il aille en Angleterre, c'est-à-dire que la Royal Navy l'a déjà à bord d'un de ses navires, donc on peut très bien ensuite choisir une destination dans une des innombrables colonies ou possessions anglaises dans le monde entier et l'y envoyer pour l'oublier. Et finalement, c'est un rôle que les Anglais acceptent très volontiers, parce que ça leur donne de l'importance, ça leur confère un certain prestige. Ils ont Napoléon en otage, ils peuvent toujours d'ailleurs s'en servir comme un moyen de pression face aux autres puissances européennes. Et enfin, ils ont été tellement échaudés par ce départ de l'île d'Elbe qu'ils se disent « mieux vaut qu'on le surveille nous-mêmes ».
Des officiels britanniques montent à bord du Bellérophon pour lui annoncer sa déportation. Napoléon encaisse, mais le choc est immense.
L'île de Sainte-Hélène a été choisie comme future résidence du général Bonaparte. Son climat est sain et sa situation locale permettra qu'on y traite avec plus d'indulgence qu'on ne le pourrait faire ailleurs, vu les précautions indispensables pour s'assurer de sa personne. Il est permis au général Bonaparte de choisir parmi les personnes qui l'ont accompagné en Angleterre trois officiers, lesquels, avec son chirurgien, auront la permission de l'accompagner à Sainte-Hélène et ne pourront point quitter l'île sans la sanction du gouvernement britannique.
Napoléon apprend la nouvelle de sa déportation à Sainte-Hélène le 31 juillet. Ça fait depuis quelques jours que la nouvelle commence quand même à se savoir. Déjà à Londres, on commence à en parler et même les marins à bord du Bellérophon commence à se douter qu'il ne va pas être autorisé à débarquer. Napoléon sent bien qu'il y a un problème, puisqu'on ne l'a pas laissé mettre pied à terre, qu'on n'a pas laissé Gourgaud apporter son message. Il sent qu'il y a un piège, il sent qu'il y a quelque chose. Simplement, il est dans l'expectative, il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, et il va attendre donc le 31 juillet, et là, on lui envoie quand même un représentant officiel qui va lui annoncer la nouvelle de sa déportation à Sainte-Hélène, et apparemment, Napoléon l'apprend et lâche une sorte de flot d'injures en italien absolument furieux.
Alors, quand les officiels britanniques se présentent à lui, Lord Bunbury, le sous-secrétaire d'État à la guerre et aux colonies, se présente à lui et lui annonce que, en fait, le gouvernement britannique a choisi pour lui une déportation à Sainte-Hélène. Pour lui, c'est un choc considérable, mais il s'y attend absolument pas.
Comment Napoléon a-t-il pu faire preuve de tant de naïveté en se rendant à son pire ennemi? Il n'a en tout cas pas vu le piège se refermer sur lui. Il proteste, mais ça ne servira à rien. Il est bel et bien prisonnier et n'est plus maître de son destin.
Je proteste solennellement ici